Bien, bien bonsoir. Nous allons commencer. Donc ce soir, les deux séances qui sont au programme, vous avez pu observer qu'elles ne se suivent, elles ne suivent pas vraiment, vu que l'une c'est la 18, l'autre c'est la 22. Alors, c'est un choix dans lequel j'ai pris une certaine part, ce n'est pas un caprice, mais simplement la volonté dans ce séminaire qui est très volumineux. C'est à l'époque où Lacan faisait séminaire quasiment chaque semaine, c'est vraiment un séminaire marathon. Eh bien, si on voulait vraiment donner un écho, un reflet de ce qui était le vif de l'enseignement de Lacan à cette époque-là, j'ai pensé vraiment que la leçon qui s'appelle « Les masques du symptôme » et l'autre qui s'appelle « Le désir de l'autre », eh bien ça, ce sont des leçons, ce sont des termes, ce sont des expressions qui sont vraiment lacaniennes. Il n'y a que Lacan pour avoir parlé des masques du symptôme et le désir de l'autre. S'il n'y avait pas eu Lacan, le désir est peut-être un mot qui aurait peut-être disparu du vocabulaire. La question se pose. En tout cas, ce n'est pas exclu. Et le désir de l'autre, alors, l'a vraiment inconnu au bataillon. Ça, vraiment, le désir de l'autre, maintenant, c'est passé dans le langage courant, mais c'est vraiment une invention de Lacan. Donc, nous en arrivons à la fin de l'année. Moi, considérer qu'il fallait donner un écho de ce point-là de doctrine, ce point-là de la structure. Même chose pour l'exposé qui viendra de Véronique Mariage, où là, j'ai choisi la signification du phallus dans la cure. Ça aussi, le phallus, la signification du phallus, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que, de un, c'est quoi le phallus? Et puis alors, si on a une idée de ce que c'est que le phallus, bon, voilà. Mais alors, la signification du phallus, mettre une signification sur ce dont il s'agit dans le phallus, ça, évidemment, il n'y a que Lacan pour inventer une idée aussi baroque. Et donc, vraiment, c'était très bien que Véronique Mariage soit vraiment, je pense, très bien placée pour parler du signification du phallus dans la cure. Donc, voilà comment on a structuré donc, la fin de cette année. Donc, je vais d'abord céder la parole donc, à Laura Petrosino, qui va nous parler donc, des masques du symptôme. Alors, vous connaissez Laura, qui n'est pas la première fois qu'elle parle. Pour ceux qui ne la connaissent pas, donc, je vais préciser donc, que Laura est psychanalyste à Bruxelles, membre de la CS Belgique. J'avais encore envie de rajouter quelque chose, mais je ne peux pas. Donc, il faut que je m'en tienne à ça. Donc, elle est psychanalyste à Bruxelles et vous savez, m'en rajouter qu'elle est une des rares en Belgique à pouvoir pratiquer en plusieurs langues. N'est-ce pas? Enfin, ça, je ne pouvais pas dire, mais je le dis quand même. Voilà, je lui passe la parole.
Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Bon. Donc, je vais essayer de commenter la séance 18, les masques du symptôme. Et la première chose que je voudrais dire, qui est intéressant pour moi, c'est le titre que Miller, Chakala Miller a mis à cette séance, que c'est « Les masques du symptôme ». Qu'est-ce que je trouve intéressant? C'est d'une part le fait que Chakala Miller dit « les masques » en pluriel, donc il s'agit de plusieurs masques ou de différentes façons de concevoir les masques, et aussi le fait qu'il met en relation dans les titres deux notions, celle du masque et celle du symptôme. On va voir quelle est la relation qu'il y a entre ces deux notions. Donc, et ce chapitre est un chapitre où Lacan fait référence en cas de Freud. Et un cas d'une hystérique qui s'appelle Elisabeth Bonner. Et depuis le début du chapitre, Lacan amène, disons, une troisième notion. Si on pense masque, symptôme, alors il y a une troisième notion qui est mise en relation avec ce deux-là, qui est la notion du désir. La notion du désir est, comme disait Philippe, est on peut dire, l'objet du séminaire, d'une certaine façon. Et, sauf qu'ici, dans ce chapitre, elle est mise en relation avec la notion de masque et la notion du symptôme. Donc, premièrement, Lacan revient sur Freud. Donc, il va voir chez Freud, chez ce cas en particulier, comment Freud conçoit les symptômes, les désirs et les masques. Ce sont trois notions que Freud même mentionne et dans ces cas. Donc, en fait, Freud parle de ces cas, d'une part, dans les études sur l'hystérie. C'est un cas qui date de 1892. Mais aussi, il parle de ces cas dans une de ses conférences, une de ses cinq conférences sur la psychanalyse, la deuxième, qui date de 1910. Et là, il parle du cas, mais d'une façon très résumée. Et il parle surtout dans cette conférence de la notion du symptôme. Donc c'est très intéressant, en plus c'est très simple, parce que comme c'est une conférence qu'il donnait, non pas pour les médecins, mais pour le public en général, c'est très simple, c'est très joli. Et il explique avec il donne une métaphore pour expliquer comment il conçoit les symptômes et les refoulements et ce qui est en jeu dans les symptômes de l'hystérique. Donc il explique dans cette conférence, il donne l'exemple que pour lui la formation du symptôme, c'est il la pense comment. Il dit, imaginez que vous êtes dans une conférence, que vous êtes en train de donner une conférence, et qu'il y a quelqu'un qui commence à faire du bruit, qui commence à crier, qui commence à interrompre, qui dérange. Et donc, cette personne continue à déranger, on lui demande de se taire, mais il ne veut rien entendre. Donc, on lui demande de sortir. Mais la personne ne veut pas sortir, bon, elle est vraiment insupportable, donc on la met dehors par la force. Sauf que quand elle est dehors, elle veut entrer, elle continue à faire des bruits, et donc on doit mettre des choses dans la porte pour l'empêcher d'entrer. Et donc il dit, voilà, après un certain temps, on se rend compte qu'en fait, qu'elle soit dehors, c'est insupportable aussi, parce qu'on l'entend. On l'entend qu'elle crie, on l'entend qu'elle dérange de toute façon. Donc, et on choisit de la faire entrer. De la faire entrer à nouveau, mais cette fois-ci, on essaye de l'expliquer que, voilà, qu'elle doit se tenir. Et on l'entend un peu pour voir qu'est-ce qu'elle arrive. Voilà, et donc finalement, elle entre, elle s'assoit et elle est calme. Donc Freud dit, au fond, c'est ça qui fait les médecins. Il dit médecins, mais disons, on pourrait dire les psychanalystes, avec les symptômes de l'hystérique. C'est-à-dire qu'il explique que pour l'hystérique, il y a quelque chose qui devient insupportable, quelque chose qui doit être mis dehors, et donc l'hystérique la met dehors d'une façon, disons, forcée, et la tient dehors, mais que ça dérange de toute façon, et que ça revient de toute façon. C'est une métaphore du refoulement, au fond. Et donc, la tâche du médecin, c'est de pouvoir faire entrer cette chose insupportable, pour le dire comme ça, et qu'elle soit, disons, acceptée, qu'elle puisse exister et sans que ça soit insupportable pour les sujets. Voilà. Et donc, au fond, il va expliquer après que ce qui devient insupportable, ce qu'on doit refouler, c'est un désir. Un désir qui vient faire un conflit avec les idéaux de la personne, avec ce que la personne voudrait, avec la question morale. Et donc, parce que ça fait conflit, et ce désir est refoulé, mis dehors, et disons que les symptômes seraient, dans l'exemple de la conférence, tout ce qu'on fait pour les tenir dehors. Ce qu'on fait pour garder cette personne dehors. Ça serait les symptômes. Et donc, c'est en allant toucher ces symptômes qu'on peut permettre, d'une certaine façon, entrer à nouveau les désirs en jeu. Donc, c'est une façon, je trouve, très, très jolie, très simple d'expliquer ce qu'est un jeu et pour l'hystérique. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour lire certains passages du cas d'Elisabeth Bonheur, parce que c'est vraiment très, très intéressant, et parce que ça va nous servir à comprendre un peu mieux la leçon de Lacan. Et c'est vraiment un cas où Freud nous fait entrer, c'est comme un roman, en fait, où on veut savoir l'intrigue, parce qu'il y a une intrigue depuis le début. Et l'intrigue, c'est de savoir quelle est la cause du symptôme. Freud est toujours derrière la cause. Donc il suppose qu'une fois qu'on a trouvé la cause du symptôme, alors le symptôme est désamorcé, on va dire, et alors on arrive à guérir les sujets. Et donc c'est pour ça que c'est très, très intéressant à lire, parce qu'il y a une intrigue, on cherche, on croit que c'est ça, et après ce n'est pas ça, et il continue à chercher, voilà, et jusqu'à la fin, on n'est pas sûr. Et finalement, on trouve qu'est-ce que c'est cette cause qui a mis ce sujet malade. Donc, je vais vous lire quelques passages du cas. Et Freud dit donc, il présente le cas, il dit, au cours de l'automne 1892, un médecin de mes amis me demande d'examiner une jeune fille qui, depuis plus de 2 ans, souffrait de douleurs dans les jambes et marchait avec difficulté. Il ajouta qu'il s'agissait, d'après lui, d'une hystérie, bien qu'aucun de ses symptômes habituels de cette névrose ne soit décelable. Il connaissait un peu la famille de la malade et savait que les années écoulées lui avaient apporté beaucoup de malheurs et peu de choix. D'abord, la malade avait perdu son père, puis sa mère avait dû subir une grave opération aux yeux, et bientôt après, une de ses sœurs mariées était morte d'une affection cardiaque après son accouchement. C'est notre patiente qui avait eu la plus grande part de tous les soucis ainsi que de tous les soins à donner. Donc, les symptômes avec lesquels cette patiente se présente, c'est la douleur dans les jambes. Et la première chose que Freud fait, C'est de la faire raconter un peu l'histoire, son histoire, la question de son père. Et voilà, c'est là que la patiente commence à parler aussi de sa mère qui a été malade et de sa sœur qui s'est mariée, bon, de tout ce qui s'est passé. Et alors Freud dit à la page 109, et dès le début, j'ai soupçonné qu'Elisabeth devait connaître les motifs de sa maladie. Donc, qu'elle renfermait dans son conscient, non point un corps étranger, mais seulement un secret. En la regardant, on pensait aux paroles du poète. Ces petits masques-là font augurer un sens caché. Donc, on voit bien que Freud, en fait, au début, il pense que la patiente sait la raison pour laquelle elle est malade. Il y a une note à pied de page qui dit: on verra que je me trompais sur ce point. Donc Freud, après, il se rend compte qu'en fait, la malade ne connaît pas la raison. Et une chose intéressante, c'est qu'il parle donc du poète. Et c'est là qu'il amène la question du masque. Et c'est intéressant de voir qu'il croit qu'il y a un sens caché. D'une part, qu'il parle de sens, et d'autre part, qu'il parle de caché. C'est-à-dire que Freud pense qu'il y a les symptômes et que quelque chose est caché à l'intérieur. Et qu'il faut aller la chercher, cette chose cachée, parce que c'est comme ça qu'on va guérir les symptômes. Donc, il dit que tout de suite, il a renoncé à l'hypnose avec cette patiente, parce qu'elle ne consentait pas à être hypnotisée. Et il dit aussi que ce fut la première analyse complète d'une hystérie qu'il a faite. C'est pour ça que le cas est très long, parce que vraiment, il développe très bien les cas avec beaucoup de détails. Il dit: elle m'a permis de procéder pour la première fois à l'aide d'une méthode que j'érigeais plus tard en technique, à l'élimination par couches des matériaux psychiques, ce que nous aimions à comparer à la technique de défouissement d'une ville ensevelie. Je me faisais d'abord raconter par la malade tout ce qui lui était connu, en notant avec soin les passages où une association demeurait énigmatique, où un maillon semblait manquer dans la chaîne de motivation. Puis, je poussais ensuite plus avant dans les couches profondes du souvenir, en utilisant dans ce cas soit l'investigation hypnotique, soit une technique analogue à cette dernière. Donc, voici, d'après ces dires, de quoi s'est composée la couche la plus superficielle de ses souvenirs. Donc, Freud commence par le plus superficiel et il va chaque fois plus loin. La couche la plus superficielle a à voir avec les faits, ce qui s'est passé, par exemple. Et la malade lit, il s'ensuit qu'elle s'attache très profondément à son père, et homme enjoué, aimant, profiter de la vie, qui avait accoutumé de dire que pour lui, Elisabeth remplaçait un fils et un ami avec qui il pouvait échanger des idées. Il la qualifiait d'impertinente et d'ergoteuse, la mettait en garde contre des jugements trop catégoriques. Et une franchise trop brutale, elle répétait souvent qu'elle trouverait difficilement un mari. En fait, elle était elle-même très mécontente de sa féminité, forgeait quantité de plans ambitieux, voulait faire des études ou devenir musicienne, s'enchurchait contre l'idée de devoir sacrifier dans quelques mariages ses inclinations à la liberté de son jugement. En attendant, elle était fière de son père, de la situation sociale de sa famille, de la considération dont celle-ci jouissait et veillait jalousement à tout ce qui touchait ses biens précieux. Elle s'effaçait à l'occasion devant sa mère et ses aînés, atténuant ainsi pour elle les aspérités de son caractère. Donc au fond, il donne une espèce de portrait de la patiente, selon ce dit. Voilà. Après, elle parle de son père malade, de comment elle a pris soin de lui. Parce que au début, elle dit que les douleurs commencent à cette époque, à l'époque où son père était malade et qu'elle avait dû prendre soin de lui. Et voilà. Donc, Freud divise les traitements en trois parties, trois périodes. La première période, il dit, j'ai décidé donc de demander directement au conscient élargi de la malade à quelle impression psychique était liée la première apparition de douleur. Il fallait pour cela plonger la malade dans l'état hypnotique, mais malheureusement, je fus forcée de reconnaître que les procédés utilisés à cet effet ne parvenaient pas à mettre la patiente dans un état différent de celui où elle m'avait fait sa confession. Dans mon embarras, l'idée me vint d'utiliser les procédés par pression sur la tête, que j'ai exposé en détail dans une précédente observation, celle de Miss Lucie. Elle resta longtemps muette et reconnut ensuite, lorsque j'insistais qu'elle avait pensé à une soirée où un jeune homme l'avait accompagnée chez elle, à la conversation qu'ils avaient eue, à l'impression ressentie en retournant aux cheveux de son père malade. Il y avait un homme qu'elle aimait bien et quand elle était en train de prendre soin de son père, il était venu la voir, mais elle s'était sentie très coupable parce qu'elle avait laissé son père. Bon, finalement, elle n'a plus vu cet homme. Et c'est ça la première, disons, souvenir qui vient par rapport à la douleur dans les jambes. Voilà, Freud est convaincu que la douleur physique, c'est-à-dire la douleur dans les jambes, les symptômes de conversion, comme il l'appelle, est en fait justement une conversion d'un émoi psychique. Et que cela est en lien avec un souvenir refoulé. Refoulé parce que insupportable. Et donc, il va chercher ça. Là, il commence la deuxième période du traitement et où la malade commence par me surprendre en m'annonçant qu'elle savait maintenant pour quelle raison les douleurs partaient toujours d'un point déterminé de la cuisse droite et y étaient toujours les plus violentes. C'était justement l'endroit où chaque matin, son père posait sa chambre très enflée lorsqu'elle enchaînait les bandages. En outre, les chambres douloureuses commenceraient elles aussi à parler pendant nos séances d'analyse. Expliquons-nous cet étrange état des choses. En général, au moment où nous commencions notre travail, la malade ne souffrait pas. Lorsque, par mes questions ou en appuyant sur sa tête, j'éveillais quelques souvenirs, une sensation douloureuse se produisait lors de la séance. Et donc Freud dit « J'ai appris peu à peu à me servir de l'éveil de cette douleur comme d'une boussole. Lorsqu'il arrivait de se taire sans que la douleur cessait, je savais qu'il n'avait pas encore tout dit et j'insistais pour qu'il continue cette confession jusqu'au moment où celle-ci avait supprimé la douleur. C'est alors seulement que j'éveillais un nouveau souvenir. » Donc il se servait de la douleur que la patiente expérimentait pendant la séance comme boussole pour aller chercher plus loin dans ce sens-là. Au cours de cette période d'abréaction, l'état de la malade s'améliora, tant au point de vue psychique qu'au point de vue somatique, de façon si évidente que j'avais pris l'habitude, à manière de plaisanterie, d'affirmer que je la dévarasserais chaque fois d'une centaine de motifs de souffrance et qu'une fois que tout aurait été enlevé, elle serait bien portante. Voilà. Alors, il arrive un troisième moment de traitement. Il dit que l'état de la malade s'était amélioré et soulagé psychiquement. Elle était devenue capable d'agir. Mais de toute évidence, les douleurs n'avaient pas disparu. Elles revenaient de temps en temps avec la même intensité qu'autrefois. Le succès thérapeutique incomplet était proportionnel à une analyse incomplète. Et je ne savais pas encore exactement à quel moment et par quel mécanisme les douleurs avaient été créées. Durant la deuxième période, au rappel de diverses scènes, tandis que j'observais la répugnance de la malade à parler, un certain soupçon avait germé dans mon esprit. Mais je n'osais pas encore régler sur lui ma façon de procéder. Ce fut une observation fortuite. C'est ça qui est incroyable. C'est que lui, il travaillait énormément Freud avec cette patiente, en essayant qu'elle parle, qu'elle raconte, qu'elle amène de nouveaux souvenirs, alors que c'est à partir d'une observation fortuite qui vient confirmer les soupçons de Freud. J'étais un jour en train de travailler avec ma malade, quand nous entendîmes dans la pièce voisine résonner des pas d'homme et une voix agréable qui semblait poser des questions. Ma patiente s'éleva alors et me demanda d'interrompre la séance, car c'était son beau-frère qui la demandait. Il fait référence ici au mari de sa sœur. En fait, elle avait deux sœurs. Les deux s'étaient mariées, elle aimait en fait le mari d'une de ses sœurs. La sœur, en fait, qui est morte, justement. Donc, au moment où elle entend ses pas et ces personnes parler, elle pense que c'est lui, cet homme, le mari de sa sœur. Jusqu'à ce moment-là, elle n'avait pas souffert. Mais après cette interruption, sa physionomie et sa démarche révélèrent l'apparition soudaine de violentes douleurs pendant la séance. Mes soupçons se trouvent renforcés et j'ai résolu de provoquer un éclaircissement décisif. C'est là que Freud s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à voir entre les symptômes de la malade et cet homme qui était le mari de sa sœur. Je l'interrogeai donc sur les circonstances et les causes de la première apparition des douleurs. Ses pensées s'attachent alors à ses vacances dans la ville d'Eau où elle était allée avant son voyage à Gastein et certaines scènes surgirent que nous avions déjà plus superficiellement traitées auparavant. Alors, pendant ses vacances, elle va faire une promenade avec cet homme. Et elle dit alors, au moment de la promenade, qui était étroitement liée aux douleurs d'Elisabeth, les beaux-frères avaient tout d'abord refusé de sortir, préférant rester auprès de sa femme malade. Mais un regard de celle-ci, pensant qu'Elisabeth s'enrichirait, les décida à faire cette excursion. La jeune fille reste tout le temps en compagnie de son beau-frère. Il parle d'une foule de choses intimes et tout ce qu'il lui dit correspondait si harmonieusement à ses propres sentiments qu'un désir l'envahit alors. Celui de posséder un mari ressemblant à celui-là. Puis, ce fut le matin qui suit le départ de la sœur et du beau-frère qu'elle se rendit à ce site, promenade préférée de ceux qui venaient de partir. Là, elle s'assit sur une pierre et rêva à nouveau d'une vie heureuse comme celle de sa sœur, d'un homme comme son beau-frère, qui saurait capter son cœur. En se relevant, elle ressentit une douleur qui disparut cette fois-là encore, et ce ne fut que dans l'après-midi qu'elle suivit un bain chaud, puis pris dans cet endroit, que les douleurs apparurent pour ne plus la quitter. Donc, Freud dit, à ce moment, tout s'éclairait. Les efforts de l'analyste étaient couronnés de succès. À cette minute, ce que j'avais supposé se confirmer à messieurs, l'idée de la défense contre une représentation insupportable, l'apparition des symptômes hystériques par conversion d'une excitation psychique en symptômes somatiques, la formation par un acte volontaire aboutissant à une défense d'un groupe psychique isolé. C'était ainsi, et non autrement, que les choses s'étaient ici passées. Cette jeune fille avait éprouvé pour son beau-frère une tendre inclination, mais toute sa personne morale, révoltée, avait refusé de prendre conscience de ses sentiments. Enfin, lorsque cette attitude s'était imposée à elle, pendant la promenade faite avec lui, pendant sa réveillée matinale au banc et devant le lit de sa sœur, elle s'était créée des douleurs par une conversion réussie du psychique en somatique. Parce qu'après, Freud explique que quand sa sœur est morte, et elle est à côté, au lit, à côté de son lit, elle a cette idée qu'elle refule, que c'est maintenant, il est libre, je pourrais me marier avec lui. Donc, Freud arrive à trouver les désirs inconscients qui est à l'origine du refoulement et à l'origine du symptôme de la douleur dans les chambres. C'est ce désir de vouloir se marier avec le mari de sa sœur, qui pour elle est insupportable, et donc qu'elle refuse. Mais donc on voit dans la démarche de Freud l'intérêt de Freud à trouver ce désir qui lui suppose caché. Après, le traitement est fini. Bon, il rencontre la mère de sa patiente et elle le raconte un peu. Sa patiente se fâche un peu avec lui parce qu'il le raconte à sa mère ses secrets. Mais en conclusion, elle va mieux et les symptômes disparaissent et le traitement finit. Donc, et Lacan fait référence à ces cas. Il commence en disant que la découverte freudienne porte l'accent sur les désirs. Lacan nous dit que ce que Freud essentiellement découvre, c'est qu'il apprend dans les symptômes, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse des symptômes pathologiques ou qu'il s'agisse de ce qu'il interprète dans ce qui s'est présenté jusque-là, de plus ou moins réductible à la vie normale, à savoir le rêve, par exemple, c'est toujours un désir. Ce qui est intéressant et qui est à noter, c'est que Lacan, à ce moment, dans les séminaires, il met au même niveau les symptômes et les autres formations de l'inconscient, comme par exemple les rêves. Il dit qu'il s'agit, dans tous les cas, d'un désir caché. Il apparaît donc d'ores et déjà que le désir est lié à quelque chose qui est son apparence. Et pour dire les mots, son masque. Donc, dans la démarche de Freud, il y a la supposition que le désir est caché derrière le masque. Et Lacan vient dire qu'il y a quelque chose du masque qui dit quelque chose du désir. Que ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas la même chose de dire qu'il y a quelque chose qui cache quelque chose. Ce n'est pas pour ça qu'il doit avoir dans les masques, il y a quelque chose de désir même. Le désir pourrait être caché derrière les masques et qu'il n'y ait pas aucun signe de ça dans les masques même. Mais Lacan, ce qu'il vient de dire, c'est que dans les masques, dans l'apparence du saint homme, il y a quelque chose du désir, un jeu. Et donc Lacan explique que Freud, en fait, parce que une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que Freud, quand il découvre ces désirs inconscients pour l'objet, c'est-à-dire pour l'homme, les beaux-frères, Freud interprète ça, ce qui veut dire qu'il le dit. Il dit à la patiente, vous aimez votre beau-frère. Il le dit directement, il dit ça à la patiente. Et donc Lacan explique, c'était une autre époque, parce que Freud avait à voir avec, avec ses désirs refoulés, cette époque où les idéaux étaient dans une autre place, et où dire ça à la patiente avait un effet. Mais Lacan explique qu'au fond, Freud va trop vite, en fait, qu'il va trop vite, Il explique qu'il va trop vite et tout l'effort de Lacan, c'est aussi de montrer dans ce chapitre, à mon avis, qu'il y a quelque chose du désir qui n'a rien à voir avec l'objet. L'objet dans le sens, les beaux-frères dans ce cas. C'est-à-dire, les désirs, à quoi ils s'adressent les désirs, dans ce cas-là, aux beaux-frères. Lacan, son effort, il me semble, c'est de partir de Freud pour montrer que le désir n'est pas que ça. Qu'il n'y a pas que ça qui est en cause dans le désir. Mais Lacan est en train de chercher, donc il n'est pas lui-même si clair parfois, il cherche. Voilà. Donc, Lacan explique que pour Freud, l'interprétation cherche un X qui est caché. Alors, il dit à la fin de la première partie, il dit « Revenons donc au caractère problématique du désir tel qu'il se présente dans l'expérience analytique, c'est-à-dire dans les symptômes, quels qu'ils soient. » Donc, comme je disais au début, la question du titre est « Les masques du symptôme », on voit bien qu'il y a quelque chose du pluriel en jeu. C'est qu'ici, déjà, il y a une différence de dire « que les désirs derrière les masques, que derrière les symptômes, que de dire qu'il est dans les symptômes. Il y a des nuances comme ça dans les chapitres qui montrent bien comment la relation entre les masques et les désirs peut être diverse. Donc, Lacan, lui, ce qu'il appelle symptôme dans ce chapitre, c'est tout ce qui est analysable. Et il explique que les symptômes se présentent sous un masque. C'est-à-dire sous une forme paradoxale. Mais donc là, on voit aussi, c'est quoi? En tout cas, c'est comme je le comprends comme ça, c'est que il semblerait que pour Lacan, là où pour Freud, il y a les symptômes qui recouvrent les désirs, pour Lacan, les symptômes, il y a un masque des symptômes, du symptôme, c'est-à-dire que les symptômes même est à déchiffrer. Il y a quelque chose qui est caché dans les atomes mêmes. Et c'est là où ce que Lacan apporte par rapport à Freud, ici, c'est il l'appelle un double caractère du symptôme, du désir, pardon, un double caractère. C'est là qu'on revient à la question de l'objet. Parce que Lacan explique que donc il y a l'objet qu'on désire. Mais il y a aussi les masques. C'est, il dit, page 327, ce double caractère du désir inconscient qui, en l'identifiant à son masque, en fait autre chose que quoi que ce soit qui soit dirigé vers un objet. Nous ne devons jamais l'oublier. Je trouve que, bah, en tout cas pour moi, c'est là qu'est le noyau de ces leçons, c'est-à-dire dans le fait qu'il y a d'une part l'objet, que Freud allait tout de suite dire voilà, c'est ça votre objet, mais il y a aussi les masques. Parce qu'on voit bien que l'effort de Lacan, il me semble, c'est de séparer d'une certaine façon, les symptômes et les désirs. D'une certaine façon, Lacan dit, dans cette leçon, les désirs n'est pas un désir d'un objet seulement, mais les désirs et son masque. Et c'est là, il cherche, en fait, dans ces chapitres, Lacan fait beaucoup de couples de concepts. Il cherche à dissocier, à ouvrir ces désirs pour un objet. Donc, il parle du ravalement de la vie amoureuse, où l'amour et le désir sont dissociés, où il y a l'amour pour la femme, disons, idéalisée, et le désir pour la femme ravaler. Mais tout ça, il me semble, pour montrer il va l'appeler après spaltum, c'est-à-dire la division, la dissociation de deux choses, là où Freud avait parlé surtout de désir pour les beaux-frères, pour un objet, et d'un objet, c'est mieux de dire. Et donc, par rapport à cette dimension où le désir est son masque, ce que Lacan apporte, c'est que c'est là qu'il amène la question du signifiant. Donc il dit qu'il y a dans le désir un signifiant privilégié qu'il va appeler le phallus. Donc, le phallus n'est pas à confondre avec l'objet beau-frère, dans ces cas-ci. Donc, c'est là qu'il va parler de la question du désir en relation à la demande. Pour montrer qu'il y a quelque chose dans le dire, dans la demande, en fait, et qui est de l'ordre du désir, c'est-à-dire que le désir s'en dégage de la demande, qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être dit, que c'est là qu'est situé le désir. Et c'est en ce sens-là qu'il dit que le désir n'est pas articulable, mais il est articulé. Et donc, peut-être, moi, je vais dire ça et je vais finir. C'est que, il me semble que ce que Lacan essaie de transmettre, c'est qu'il y a quelque chose dans la demande, à l'intérieur même, disons, entre, c'est un entre, ce n'est pas derrière, comme Freud avait proposé quelque chose caché dans le sens où derrière, sinon quelque chose qui se trouve entre les signifiants, qui est d'autre ordre, et qui est là, qui a situé les desiens. C'est donc, je vais lire simplement le dernier paragraphe. Il dit « Nous verrons la prochaine fois cette condition essentielle qui lie les sujets en signifiant prévalent, privilégié, que nous appelons non pas par hasard, mais parce que concrètement il est ce signifiant, les phallus. Nous verrons que c'est précisément à cette étape que se réalise, paradoxalement, ce qui permet au sujet de se retrouver comme à travers la diversité des masques, mais aussi que d'autre part, l'effet fondamental divisé, marqué d'un spaltum essentiel entre ce qui est désir et ce qui est masque. Mm-hmm. Voilà, je vais arrêter là.
Écoute, merci. Il est moins clair et. Tout à l'heure, on discutera. Quand je veux bien débattre après, enfin, sur maintenant, on va d'abord écouter donc Anne, qui va nous parler de quelque chose qui a plus étroit rapport avec tout ça. Comme Laura vient d'abord parler du désir dans symptômes et masques. Donc Anne, maintenant, va prendre la question du désir de l'autre, les deux choses se tiennent. Comme vous présentez Anne,
pour vous dire donc Anne est aussi clinicienne à Nivelles, n'est-ce pas, et membre aussi de la CF Belgique. Voilà, présentation pour en dire beaucoup plus. Il faut toujours s'arrêter, mais bon. Voilà.
Merci. Bon, alors, donc j'ai à vous commenter cette leçon 22 intitulée « Le désir de l'autre », qui participe, au fond, on entre ici dans la quatrième partie du séminaire que Lacan et Jacques-Alain Miller, en structurant le séminaire, a appelé « La dialectique du désir et de la demande dans la clinique et dans la cure des névroses ». Alors, il s'agit d'une leçon qui est charnière puisqu'elle articule autour de la notion de désir de l'autre ce qu'il en est de la névrose hystérique et de la névrose obsessionnelle. Vous verrez, je situe un peu la leçon dans le séminaire, que dans l'ordre du séminaire, il y a d'abord deux leçons qui précèdent où est discutée notamment des questions tenant à la névrose hystérique à travers deux rêves, le rêve de la belle bouchère et le rêve de l'eau qui dort. Et qu'après cette 22e leçon, Lacan parle de l'obsessionnel et de son désir. Donc elle se situe à un endroit charnière de cette quatrième partie. Alors, pour aborder cette question et ce chapitre qui m'a semblé personnellement très dense et très complexe à vous transmettre, j'ai eu besoin de retourner en arrière dans le séminaire pour essayer de comprendre au fond ce qui se passait pour Lacan lorsqu'il parlait auparavant du désir de l'autre, puisqu'il en parle déjà auparavant, et qu'est-ce qu'il y aurait comme différence lorsqu'il aborde le désir de l'autre dans cette quatrième partie. Je voudrais d'abord rappeler que le mouvement central du séminaire 5 ici, comme le fait remarquer Jacques-Alain Miller, c'est de faire passer un certain nombre de termes élaborés par Lacan auparavant dans un registre plutôt imaginaire, de les faire passer au crible du signifiant, au crible du symbolique, et de voir au fond si ça tient dans ce cadre du registre symbolique ou si au contraire il y a quelque chose qui y résiste. Et en fin de compte de ce parcours, il y a effectivement quelque chose qui résiste à ce registre. Donc, on voit dans les chapitres qui précèdent la notion du père, de la mère, du moi, du phallus, qui sont passés au crible de ce versant du symbolique et qui sont considérés alors comme des signifiants. C'est un vrai work in progress, de mon point de vue, et c'est ce qui, pour moi, fait qu'on peut y perdre ses repères face à des constructions successives du graphe et à des attributions de signification successives de certaines lettres ou certains matames. Par exemple, grand D, qui est d'abord désir, devient la demande, et petit D devient à son tour le symbole du désir, dans les variations qu'on observe. Mais est-ce qu'il s'agit du même désir que le premier évoqué ? Ou encore les deux notations du phallus, petit-phi ou grand-phi. Ou encore les variations autour de la notion du grand autre, selon qu'il est barré ou non. Donc voilà, c'est déjà toute une série de changements. Alors, la recherche de Lacan met aussi en lumière un changement pour ce qu'il en est du désir, justement. Que pouvons-nous retenir comme élément avancé par Lacan quant au désir dans la partie précédente du séminaire ? Lacan nous dit, à la page 251, que ce qui se manifeste dans le phénomène du désir humain, c'est sa foncière subduction, pour ne pas dire subversion, par le signifiant. Le désir est installé dans un rapport à la chaîne signifiante. Il se pose et se propose d'abord dans l'évolution du sujet humain comme une demande. Donc, pour dire son désir, le petit homme doit en passer par la demande. Notons au passage que le fantasme inconscient et les objets primordiaux, bons et mauvais, deviennent pour l'un, donc pour le fantasme inconscient, structuré par les conditions du signifiant, donc on voit bien tout le mouvement du séminaire, et pour les autres, les objets primordiaux, ils deviennent des objets significantisés, c'est-à-dire des objets qui, comme signifiants, sont substituables. On peut repenser à la chaîne signifiante. Lacan articule le désir comme une demande. Plus précisément, insiste-t-il, comme une demande signifiée. Alors, que veulent dire ces deux termes de demande signifiée ? La demande, à ce moment-là du séminaire, ça implique l'autre avec un petit a. Donc c'est l'autre à qui on adresse, et de qui on exige, au fond. Mais aussi l'autre avec un grand A, un autre qui, dans ses dimensions, si je peux dire, a celle d'être le lieu où ce signifiant a sa portée, c'est-à-dire cette demande peut y prendre sens. Ça, c'est pour ce qui en est de la demande. Le terme de signifier, lui, implique que dans le sujet, l'action structurante des signifiés constituée par rapport aux besoins dans une altération essentielle qui tient à l'entrée du désir dans la demande. Donc, je comprends ça, donc je vais relire la phrase doucement. Le terme signifié implique dans le sujet une action structurante de signifiés qui sont constitués par rapport à un besoin. Donc il y a un besoin qui amène une demande. Si Lacan parle de quelque chose de tout à fait dernier quant à la structuration du désir du sujet et le relie à l'aventure primordiale du désir infantile, donc quand l'enfant est tout petit, il l'annonce déjà à ce moment-là du séminaire comme le désir du désir de l'autre ou le désir d'être désiré. Donc là, on trouve le terme dans le séminaire. on trouve là la notion fondamentale de la dépendance primordiale du sujet enfant par rapport au désir de l'autre, ce premier autre qu'est la mère pour l'enfant. Le sujet est soumis à la loi du désir de l'autre, et le plus profond désir du sujet, son désir inconscient, est représenté, nous dit Lacan, par la somme, l'intégrale, dit-il, de ce grand D, le désir de l'autre. Donc à ce moment-là, le désir de l'autre est symbolisé par grand D. L'important ne se réduit pas à la frustration. Donc ce qui est important dans cette histoire de demande et de désir pour le petit enfant, c'est pas à un moment que ce qu'il demande lui soit refusé, ce n'est pas la frustration, mais c'est en quoi le sujet a repéré ce désir de l'autre qui est le désir de sa mère. Donc il me semble que dans cette approche, donc dans ces séminaires précédents, nous sommes encore dans le temps qui précède le troisième temps du complexe d'Œdipe, dont nous avait parlé Bogdan Kuznirek. Dans ce que celui-ci apporte de normalisant, donc ce troisième temps, par la constitution des identifications et l'émergence de l'idéal du moi. Ce grand D comme désir de l'autre, que Lacan introduit ici, n'est pas encore tout à fait marqué par les transformations qui vont permettre la venue d'un nouveau désir, dont on va nous parler par la suite. Un désir nouveau, même si nous sentons bien, me semble-t-il, que ça se profile déjà à l'horizon. Ce désir du désir de l'autre, ou désir d'être désiré, est ce qui se joue dans la dialectique d'être ou non le phallus pour la mère, l'objet du manque de la mère, la dialectique de l'être et de l'avoir. C'est ce que Lacan indique, me semble-t-il, quand il dit « La dialectique primordiale du désir telle que Freud l'a découverte et qui compose un rapport tiers qui fait intervenir au-delà de la mère, voire à travers elle, la présence du personnage, désiré ou rival, mais toujours tiers qu'est le père. » Donc, dans ce temps de la première dialectique du désir, la mère introduit, de par sa parole, un tiers terme qui est le père. Ce troisième terme se pose en tant que présence signifiante. Il est d'abord un fait de la parole de la mère, simplement. Et il donne sens. Et il est ce par quoi le sujet demande à être signifié. Ce troisième terme, dit aussi Lacan, en tout cas si je l'ai bien compris, peut être aussi vu du côté du phallus en tant que signifiant du manque de la mère. Donc qu'est-ce qui manque à la mère? Et il implique donc une distance entre la demande du sujet et son désir. Il me semble qu'on sent ici, comme je l'ai dit un peu avant, que lorsque la mère a elle-même son désir, comme désir de l'autre, orienté donc elle aussi par le signifiant du manque, à savoir le phallus, eh bien il me semble que quand il y a ça chez la mère, s'amorce ici ce que Lacan prépare dans la quatrième partie, à savoir que le grand autre est barré lui aussi, puisque la mère, au fond, s'oriente aussi du manque, c'est-à-dire d'un manque dans l'autre. Donc, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui survient pour le sujet à l'endroit de son désir au troisième temps de l'Œdipe, lorsqu'il s'identifie à ce que Lacan appelle les insignes du père? Eh bien, il survient que le désir n'est plus le même, qu'il s'effectue un passage d'un désir primaire à un nouveau désir par le biais de l'identification. Et donc, c'est ce nouveau désir Donc une fois que, au fond, le sujet est passé par ce troisième temps de l'Oedipe, c'est ce nouveau désir que Lacan va écrire petit d. Alors, je ne vais pas reprendre les trois formules, peut-être j'y reviendrai après, mais les trois formules du désir que donne Lacan à un moment, mais je voudrais juste souligner que ce qui est en jeu ici, à un moment donné, c'est que donc on avait l'autre qui était considéré, le grand autre, qui était considéré à un moment comme trésor des signifiants, c'est-à-dire une forme relativement pure, et en fait, ce qu'on constate, c'est que pour que le désir du sujet s'oriente et pour qu'il se constitue en tant que sujet, il faut que ce grand autre même soit un sujet désirant, c'est-à-dire marqué du manque. Et c'est pour ça que dans ses formules, Lacan va introduire cette barre qu'il met sur le grand autre, c'est introduire, comme il le dit à un endroit, une partie plus impur de ce grand autre en tant que lui aussi est désirant et marqué par le manque, ce qui permet au sujet, au jeune sujet, d'orienter son propre désir. Donc dans la quatrième partie, Lacan prend comme pivot le terme du désir de l'autre. Il va d'une part, comme il l'avait commencé à le faire, différencier la demande, le désir, le besoin, et il va faire appel également pour ce faire au désir présent dans les rêves. Il va articuler la névrose obsessionnelle et la névrose hystérique par rapport à la question du désir de l'autre. Il va aussi détailler son graphe. Alors, je ne pense pas que j'arriverai au bout de tout ça, parce qu'il y a des questions qui, pour moi, restent en suspens, mais je vais essayer d'avancer pas à pas. Donc, précédemment, Lacan avait ouvert une parenthèse dans le séminaire, que vous trouvez page 270, page 271, pour faire remarquer, puisqu'il était parti de certaines formations de l'inconscient, que le rêve, au fond, était aussi une formation de l'inconscient et que, comme l'avait montré Freud, le rêve exprime un désir primordial, un désir de désir de l'autre. Et donc, c'est en partant de trois rêves rapportés par Freud dans la Traume de Jung que Lacan va mettre en évidence la distance, il se sert de ses rêves, en fait, pour mettre en évidence la distance entre la demande et le désir. Le désir doit en passer par le truchement de la parole qui n'a son statut que dans l'autre avec un grand A, comme lieu de la parole. Tout sur le plan, tant sur le plan symbolique que sur le plan imaginaire, il y a deux modes d'ambiguïté, deux limites, par quoi le désir se fonde dans la parole de l'autre. Donc, sur le plan symbolique, ça s'observe chez le petit enfant lorsque, par exemple, il a l'idée que ses parents connaissent toutes ses pensées. Entre la parole, sa parole et la parole de ses parents, il n'y a pas, à un certain moment, une distinction claire. Et donc, c'est parce que, à un certain moment, entre ces deux limites, dans l'ordre imaginaire et dans l'ordre symbolique, il y a un décalage, il n'y a pas une identité, si je peux dire. C'est à cause de ce décalage que, au fond, le sujet va prendre conscience de sa différence d'avec l'autre. Et qu'au fond, il peut à la fois s'aliéner, mais à la fois il ne se confond pas dans l'autre. C'est donc la discordance des deux registres, imaginaire et symbolique, qui ouvre au sujet une première possibilité de se distinguer comme tel. Cette dialectique de la demande correspond à ce que on a appelé chez certains analystes la période pré-œdipienne, que Lacan discute de cette opportunité d'appeler ça période pré-œdipienne. Il n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais en tout cas pré-génital, dit-il, ça oui. Le désir en tant que désir de l'autre, c'est ce que le sujet va rencontrer comme un désir, et donc c'est ça qui est nouveau, comme un désir qui n'a pas encore intégré par le fait des premiers désirs qu'il a pu exprimer. Ces premiers désirs qui portaient tantôt sur l'objet oral, tantôt sur l'objet anal. Le sujet, nous dit Lacan, reconnaît un au-delà de sa demande, ça rejoint ce que disait Laura, qu'il situe dans un au-delà du premier autre à qui il a adressé sa demande, c'est-à-dire sa mère. La fonction de ce désir de l'autre, quelle est la fonction de ce désir de l'autre ? C'est d'opérer une véritable distinction du sujet et de l'autre, par le fait de la présence et de la dimension de ce que l'autre désire. Donc ça rompt la réciprocité antérieure dans le principe de la demande, puisque quand l'enfant adresse une demande à sa mère, il est dépendant de sa réponse à cette demande ou pas, mais on sent aussi que la mère adresse des demandes à l'enfant dont elle est également dépendante. Le fait qu'il y ait quelque part le fait que la mère désire autre chose, qu'il y ait le désir de l'autre, ça rompt cette réciprocité, et donc ça permet au sujet de se situer comme distinct de sa mère. Le désir du sujet est d'abord repéré et trouvé dans l'existence comme telle du désir de l'autre en tant que désir distinct de la demande. Alors, je vais aller reprendre un extrait du séminaire. Donc, Lacan illustre comme je vous l'ai dit, cette différence entre désir et demande en faisant appel au rêve présenté par Freud. Voilà, et donc il s'agit du rêve de la belle bouchère que je vais vous lire, en tout cas le début. Donc c'est à la page 360 du séminaire. Voici le rêve, dit Freud. Je veux donner, donc c'est sa patiente qui parle, hein, je veux donner un dîner, mais je n'ai pour toute provision qu'un peu de saumon fumé. Je voudrais aller faire des achats, mais je me rappelle que c'est dimanche après-midi et que toutes les boutiques sont fermées. Je veux téléphoner à quelques fournisseurs, mais le téléphone est détraqué. Je dois donc renoncer au désir de donner un dîner. Donc ça, c'est la première partie du rêve tel qu'il est livré par la patiente et avant que Freud commence à creuser et à formuler son interprétation. Alors, je ne vais pas vous retracer toutes les interprétations de Freud, mais ce qui est important dans tout ça, à travers ce rêve, donc on se rend compte au fond qu'elle a, rien que sur le petit extrait ici, qu'elle a un désir qui va être insatisfait. Donc, tout ce qu'elle désire, ça capote. Et son désir de donner un dîner, elle doit y renoncer. Son désir est donc insatisfait. Donc, chez l'hystérique, le désir que nous rencontrons est un désir insatisfait, dont la fonction est la satisfaction. Alors, il faut prendre ça comme ça. La satisfaction de quoi ? La satisfaction d'avoir pour l'hystérique un désir justement qui reste insatisfait. Dans le rêve apparaît clairement la différence entre la demande, donc ici je résume ce que Freud avance. Dans le rêve apparaît clairement la différence entre la demande. Au fond, la patiente, elle a une demande d'amour à l'égard de son mari. Entre son désir, on a parlé de saumon enfin, elle parle de saumon dans le rêve, mais en fait, ce que la patiente demande à son mari, ce qu'elle aimerait avoir tous les matins, c'est un toast au caviar. Donc ça, c'est son désir qui est déplacé dans le rêve. Et ce qu'elle veut, ce qu'elle dit surtout, c'est surtout ne me donne pas de toast au caviar tous les matins. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre la demande qui est la demande d'amour, le désir qui est le caviar, et ce qu'elle veut, c'est ne pas l'avoir. Pourquoi ? Pour garder un désir insatisfait. Donc, l'hystérique désire autre chose et il est important qu'on ne lui donne pas. En créant un désir insatisfait, se constitue pour elle un autre réel qui n'est pas complètement pris dans la réciprocité de la demande. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. L'hystérique se constitue alors à partir du désir de l'autre. Et donc on voit ici apparaître le pivot de ce désir de l'autre, quelle place y prend dans l'économie psychique de l'hystérique. Nous voyons ici, dans le rapport de l'homme au signifiant, nous voyons ici, dit Lacan, que dans le rapport de l'homme au signifiant, l'hystérique est une structure primordiale qui témoigne de la Spaltung, de la demande et du désir, donc de la division entre la demande et le désir. Alors, pour aborder cette 22e leçon, Lacan commence par faire appel à des articles écrits par Maurice Bouvet qui nous donne, dit Lacan, une vision sur le fond, sur quoi s'est constituée la progressive constitution de l'objet dans la relation d'objet. Et de s'apercevoir, nous dit Lacan, par ce biais d'approche clinique, donc par le biais de l'approche de Maurice Bouvet, que, au fond, ça met en évidence la présence de ce que Lacan appelle des fausses fenêtres, donc des mauvaises pistes. Donc il va critiquer l'approche de Maurice Bouvet. Ce qui critique chez Maurice Bouvet, c'est les notions d'objet génital et prégénital. Et le fait qu'au fond, il parle chez l'obsessionnel de la relation d'objet comme objet partiel. Et Lacan précise qu'en fait, cette notion d'objet partiel vient de chez Abraham et qu'il y a eu un glissement de sens qui n'est pas sans valeur, puisque Abraham parlait d'amour partiel de l'objet. Et donc, plutôt que de voir, comme Maurice Bouvet, la question de la névrose obsessionnelle par le biais de l'objet et de l'objet partiel, plutôt aussi que de traiter la cure par le biais où le phallus est pris au niveau du fantasme, Lacan indique que, en tout cas, ce que lui propose, c'est tout autre chose. Ce n'est pas prendre les choses par ce bout-là, et c'est partir du fait, comme il en a déjà parlé précédemment, que pour lui, le phallus est un objet privilégié, donc c'est pas un objet partiel au sens de Bouvet, c'est un objet privilégié à titre de signifiant. Donc il revient et il insiste sur la notion de signifiant du phallus. Bon, alors, il revient aussi sur le fait que chez Bouvet, puisqu'il prend les choses par le biais de l'analyse, par le biais du fantasme, il y a deux phases dans ce temps du fantasme selon Bouvet, donc qu'il critique. Et il note aussi comme remarque clinique qui peut être intéressante que, contrairement à... Contrairement à ce qui est affirmé, la question de savoir si une névrose obsessionnelle peut basculer à un moment donné dans le champ de la psychose. Lui, en tout cas, n'a jamais observé ça. Et si ça existe, dit Lacan, c'est extrêmement rare. Il pense plutôt qu'il y a une incompatibilité entre les deux. Et il met d'ailleurs en garde, à ce moment-là, je trouvais aussi ça intéressant d'un point de vue clinique, de ne pas vouloir à tout prix, en tout cas je vais le dire comme ça, tordre la clinique au prix d'une cohérence de la théorie. Alors, c'est ici que ça se complique. D'une part, j'ai essayé au fond de suivre ce que Lacan disait à propos du graphe du désir dont il donne une forme à ce moment-là, et d'autre part après de parler de la névrose obsessionnelle et de la névrose hystérique. Alors, je vais prendre le graphe. Qui est page 392. Donc ce que Lacan dit, c'est que pour s'y retrouver dans tout ça, il faut situer le phallus dans cette dynamique comme élément signifiant et au fond voir un peu comment tout ça s'organise, quels en sont les effets de voir les choses par ce biais-là. Donc je vous ai redessiné le graphe ici derrière moi. On avait déjà parlé du premier étage assez souvent, en tant que le déroulement linéaire de la parole dans la flèche qui va de petit s de grand A à A, du message au code, au trésor des signifiants. Donc je vous lis ce qu'il en dit ici, et je vais essayer de le commenter au fur et à mesure. Le grand A. Donc le grand A du grand autre, où se trouve le code, ça on l'a déjà vu, le code, lieu des signifiants, trésor des signifiants, est ce qui accueille la demande. C'est dans le passage de A au point où est le message que se produit le signifié de l'autre. Donc, dans le passage de A au point où est le message, donc à S, entre parenthèses de grand A, donc quand, au fond, un message se constitue, on reçoit le signifié de l'autre, de grand A. Il s'est constitué à partir du trésor des signifiants de l'autre. Et donc ça produit le signifié de l'autre. Alors, Lacan nous dit, et il nous l'a montré, c'est pour ça aussi que je suis repartie de cette première notion du désir, que le fait que le sujet formule son besoin au tout départ par les défilés de la demande, comme il dit, donc le besoin est exprimé par le biais de la demande, ça ne suffit pas à la constitution d'un sujet. C'est pas assez satisfaisant. Donc, et il faut, dit-il, 4 points d'appui pour que se constitue un sujet. C'est pour ça, nous dit-il, qu'il y a l'au-delà de la demande. Alors, dans le graphe, il va situer la place topologique du signifiant du désir, c'est-à-dire grand phi, et il nous dit, donc ici on passe à l'étage supérieur, qu'il y a une coïncidence entre la ligne où s'inscrit la pulsion, donc la ligne supérieure c'est la ligne où s'inscrit la pulsion, et la tendance comme elle, c'est-à-dire c'est aussi le champ où vient à se situer le désir sexuel, donc il y a une coïncidence entre cette ligne-là et la place assignée au grand phi dans l'au-delà de la demande. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette coïncidence? Donc j'essaie de comprendre. Pourquoi il dit qu'il y a cette coïncidence entre donc, la pulsion, la tendance et le grand phi en tant que signifiant? Eh bien, il dit que c'est simplement une nécessité structurale. Et ça, je trouve que ça, enfin moi, ça m'a permis de commencer à comprendre. C'est quoi la nécessité structurale? eh bien, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne se superposer à l'ensemble des signifiants pour en faire un signifié. Et donc, au fond, lorsqu'il dit ça, il nous ramène à la définition du signe, grand S sur petit s. En tout cas, il nous ramène au rapport du signifiant au signe. Oui, je pense au signe de Saussure, mais c'est plutôt, je voudrais dire, il nous ramène au rapport du signifiant au signifié. On a la ligne des signifiants dans le bas, c'est le blablabla qu'on aimait, mais tout seul, ça ne fonctionne pas de structure. On sait qu'il faut un rapport signifiant-signifié, et donc, c'est de structure que cet étage apparaît. C'est pour des raisons structurales. Et j'avais pas du tout compris le petit dessin qui est donné à la page 393, mais on en a un éclairage dans le petit livre du Nouveau de Jacques-Alain Miller, parce qu'il y a erreur de typographie. C'est pour ça que je l'ai remis ici. C'est qu'en fait, les deux rectangles représentent justement une des lignes, le champ du signifiant, et une des lignes, le champ du signifié. La barre est au milieu, comme je l'ai indiqué ici, grand S signifiant, petit s signifié. Et donc, dans l'ensemble des signifiants, il y a un signifiant particulier qui est dans ce corps des signifiants, nous dit Lacan, et qui est grand phi. Et à quoi ça sert grand phi ? Ça sert à désigner l'ensemble des effets du signifiant sur le signifié. Donc ça rejoint ce que Lacan a toujours dit à l'inverse justement de Saussure, c'est qu'il y a un côté premier, primordial du signifiant sur le signifié. Bon, alors, je ne sais pas si je vais aller beaucoup plus loin dans le graphe, mais simplement peut-être pointer qu'avec le graphe, au fond, Lacan situe un au-delà de la demande et un en-deçà de la demande. Alors, la place qui est assignée à grand phi, nous dit-il, est dans l'au-delà de la demande, donc est dans l'au-delà de la demande en raison de cette raison structurelle. Mais au fond, enfin, si je devais essayer de le comprendre autrement, c'est que c'est aussi grand phi, c'est aussi le signifiant du manque, et en tant que tel, il n'est jamais atteint. Je veux dire que on peut faire toutes les demandes qu'on veut, il y aura toujours un au-delà, quelque chose qui n'est pas atteint. Et c'est d'ailleurs pour ça que le désir glisse toujours d'une chose à l'autre. C'est que quand on a l'objet de son désir, eh bien, c'est plus ça, on passe à autre chose. Et ici, il nous dit que dans l'en-deçà, qui est le champ de la demande, on a affaire à l'autre pur et simple qui fait la loi de la constitution du sujet. Donc, c'est, pour moi, c'est l'autre maternel, l'autre premier. Et donc, entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ça qui, pour moi, donne sens à cette articulation, c'est qu'au fond, l'autre n'est plus... avec la mise en jeu du phallus, l'autre n'est plus simplement un lieu pur des signifiants, mais il est lui-même barré et lui-même orienté par le désir. Alors, j'ai essayé de faire quelques repérages, mais ils seront incomplets au fond de comment ce désir de l'autre est un pivot et au fond est quelque chose qui peut être repéré cliniquement et qui peut nous dire qu'on a affaire au fond à une névrose hystérique plutôt qu'à une névrose obsessionnelle ou inversement. Alors, Lacan nous dit que dans les deux cas, enfin dans les deux cas, que ce soit chez l'hystérique ou chez l'obsessionnel, il y a à un moment un traumatisme primitif, un traumatisme premier. Qu'est-ce qui différencie ? C'est que chez l'hystérique, eh bien, ce traumatisme primitif se présente comme une scène de séduction. C'est une effraction, au fond. Alors que chez l'obsessionnel, la différence, c'est que le sujet y joue un rôle actif et il y a pris du plaisir. Donc c'est, nous dit Lacan, c'est un peu comme chez l'hystérique, mais c'est transformé. L'hystérique, on l'a vu, tient à avoir son désir insatisfait, et vit tout entière au niveau de l'autre. Elle a besoin du désir de l'autre. Alors que du côté de l'obsessionnel, il n'en va pas comme ça. Lacan nous rappelle d'abord que Freud a pointé, donc il revient à la théorie de Freud, une désintrigation chez l'obsessionnel des instincts de vie et des instincts de mort, et que on voit bien cliniquement comment l'obsessionnel tend à détruire son objet. Alors il donne l'exemple, je trouvais ça intéressant, de l'enfant qui demande une petite boîte et qui n'arrête pas, dont les parents peuvent parler à l'occasion de leurs enfants en disant « mon enfant a des idées fixes ». Comment est-ce que ça se voit chez l'enfant, chez un sujet en devenir de sujet obsessionnel au fond? Et il dit ça se repère par exemple à ces questions des idées fixes de cet enfant qui demande incessamment cette petite boîte, et en soi la demande d'une petite boîte n'est pas insupportable, mais il se fait que les parents entendent cette demande comme quelque chose d'insupportable parce que dans cette demande, nous dit Lacan, l'autre est nié. Et donc, il n'y a pas de place au désir de l'autre, au fond. Et donc, si j'ai bien compris, chez l'obsessionnel, il y a au fond, là où désir et demande sont liés chez l'hystérique, ils sont séparés chez l'obsessionnel. Il y a chez l'obsessionnel un caractère inconditionnel de la demande d'amour. Et ce caractère inconditionnel de la demande d'amour et de son désir passe avant toute chose. Le fait que ça passe avant toute chose, et c'est là la contradiction chez l'obsessionnel, fait qu'au fond, il nie l'autre et ne laisse pas de place au désir de l'autre. Ainsi, quand l'obsessionnel s'approche de son désir, nous dit Lacan, on voit tout de suite qu'à ce moment-là, son désir s'évanouit. Et donc voilà, la contradiction autour de la question du désir de l'autre, c'est que chez l'obsessionnel, il vise à détruire ce désir de l'autre. C'est ou lui ou moi, dit l'obsessionnel, ou toi ou moi. Voilà, je vais en rester là.
Bien. Quelques minutes. Bon, vous avez donc toutes les deux parlé du même point, qui est la question du désir. Est-ce qu'on pourrait traduire comme ça, dans le fond, ce que Lacan dit volontiers du désir, c'est que il prend.
Il reprend un peu sans le dire ici, mais la phrase d'Hamlet, il y a plus entre le ciel et la terre que dans toute votre philosophie. Bon, c'est une citation un peu réduite, mais enfin, il le dit à peu près comme ça. Quand il y a cette grande formule qui est longtemps semblé énigmatique et qui se retient facilement, le désir n'est pas articulable et pourtant il est articulé. Hein, si on prend ça au sérieux, ça donne une idée de ce que c'est que l'inconscient, de ce que c'est que la psychanalyse. C'est que l'aura dont on trouve articulé, c'est que Freud, dans le fond, a l'air de considérer, c'est ce qui a fait son impasse. Hein, il a l'air de considérer justement que le désir est articulable. On peut dire quel est son objet. Et il le dit, c'est là qu'est le forçage. Alors que là, ce que Lacan indique, c'est que le désir. C'est que le désir comme tel est toujours beaucoup plus large qu'aucun des objets qui peut le satisfaire. Dans le fond, est-ce qu'on pourrait dire ça, Laura, dans votre première question, pourrait poser, c'est que Lacan fait remarquer que. Oui, que justement, donc, comme le désir n'est pas entièrement articulable. Hein? Autrement dit, on ne peut pas tout dire. Hein? La pratique ne peut absolument jamais être de suggestion, de prescription. Hein? Et de. Ça ne peut jamais être ce qu'on appelle le discours du maître. Quand on fonctionne comme ça, forcément, ça peut provoquer. C'est une nouvelle répression du même désir. Parce que justement, ça l'enferme dans une formulation. Alors que le désir comme tel est bien plus large que toute la formulation qu'on peut en donner. C'est ce que Lacan n'oublie jamais. Alors, est-ce qu'on pourrait... justement, l'une des questions peut poser à Laura tout d'abord, c'est ce rapport entre ce que tu as appelé la Spaltung. Enfin, ce que Lacan appelle la Spaltung. Il dit forcément que ce qui est le propre de l'être parlant, c'est d'être profondément divisé, déchiré. Il dit même quelque part dans l'une des deux leçons, je ne sais plus, que franchement, que c'est vraiment ce qui caractérise l'inconscient. C'est la Spaltung. Le sujet comme tel est toujours double, toujours dédoublé. Il y a le désir, il y a la demande. Alors, on peut la retrouver à plusieurs niveaux, notamment le masque et le désir, enfin, le désir et le symptôme. Il y a toujours deux choses. Et justement, le masque, Freud a l'idée, est-ce qu'on peut dire ça dans le fond? Voilà, c'est la question. Freud a l'idée, dans le fond, qu'il y a un masque. Ça, Freud, c'est sa découverte de Freud, c'est que le symptôme est un masque. Et que donc, il y a quelque chose derrière. Et donc, ce quelque chose derrière, une fois qu'on a indiqué au sujet ce que c'était, eh bien, il va mieux, d'ailleurs, au revoir et merci, la cure est finie, après quelques mois, c'était comme ça. Bon. Lacan considère justement que derrière le masque, il ne faut pas aller chercher ce qu'il y a derrière le masque. On peut dire ça, que le masque, il ne faut pas aller voir ce qu'il y a derrière, parce que ce qu'il faut faire avec un masque, c'est le lire. Bon, ça doit être plus une remarque qu'une question. Bon, tu as fait beaucoup de cas justement du côté fortuit dans la cure d'Elisabeth von R. C'est quand on dit comme ça et quand on pourrait toujours penser que la psychanalyse, la cure, a quelque chose de très programmé, qu'un sujet est programmé si on prend les choses. Quand on explique trop un sujet, on peut avoir l'idée, finalement, qu'il y a en lui un programme. Et que sa névrose est la réalisation d'un programme. C'est quelque chose contre laquelle on s'inscrit. On n'a pas l'idée qu'il y a un programme et que le programme dit tout. Qu'est-ce que tu dis, quelque chose à rajouter sur ce côté, justement, fortuit? Effectivement, il y a quelque chose de fortuit. Il a entendu, à l'époque, Freud se déplacer chez des patients. C'est comme ça qu'il a entendu le frère. Quand le beau-frère, oui, à l'époque d'études l'hystérie, c'est encore un médecin qui il faisait appel le médecin, il se déplaçait. C'est comme ça qu'il a entendu dans une pièce à côté, enfin que la patiente a entendu son beau-frère arriver. On peut dire quelque chose sur ce rapport entre le fortuit et le côté par hasard, donc. Parce que si on peut dire que le désir est complètement articulé, il n'y a plus de hasard.
Oui, ça m'intéresse beaucoup la question du fortuit. Et c'est pour ça que j'avais repéré chez Freud ça, parce que c'est quand même incroyable qu'après tellement de travail, de méthodes, il a une méthode très forte, très systématique, très consistante. Et donc, que finalement, après cette méthode si bien ficelée, il avoue que c'est grâce à les pas fortuits de son beau-frère qu'il confirme son soupçon. Et je crois qu'une chose qui est intéressante de ça, c'est aussi le fait que Freud parfois dit beaucoup plus de ce qu'il sait, comme tout le monde, mais je veux dire, lui c'est très intéressant parfois de voir comment il est, d'une certaine façon, quand il écrit, il y a des choses qu'on découvre en les relisant plusieurs fois et que parfois lui-même il ne savait pas qu'il lisait. Et parce qu'une chose qui me paraît intéressante, c'est le fait que c'est quelque chose de fortuit, mais aussi quelque chose qui introduit les corps. Et parce que Freud, et parfois, même là quand il lit ici, il était parfois un peu pris par le langage, par les souvenirs, par ce qui était raconté. Et ici, c'est non seulement quelque chose de fortuit, mais quelque chose qui est de l'ordre du corps. Un corps qui entre en scène, les pas, quelqu'un, une présence. Et simplement, ce que je dirais de ça, c'est que ce qui me paraît extraordinaire, c'est que Freud est ouvert à ça. C'est-à-dire que même en étant si méthodique et si cohérent, si consistant et tout ce qu'on veut, il est ouvert à la contingence. C'est ça sa position extraordinaire, à mon avis. C'est que il est ouvert à ce qu'il ne sait pas. Et ce qui ne sait pas dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre fortuit, qui ne peut pas être prévu, qui ne peut pas être calculé. Et il fait une place à ça dans sa cure, parce qu'il aurait pu dire qu'est-ce que ça a à voir, et ne pas faire attention du tout. Par contre, sa position me paraît extraordinaire dans ce sens-là, qu'il fait une place à ça. C'est quelque chose qu'au fond, on pourrait dire, ce n'est pas scientifique. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'incalculable, justement. Voilà. C'est dans ces petits détails que parfois on voit la position analytique de Freud, dans sa position en tant qu'analyste par rapport au savoir et à ce qui peut être calculé.
Oui, il accepte de se laisser surprendre.
Exactement.
Parce que si on a l'idée que le désir est articulé, ça veut dire que l'articulation, on la connaît. Et donc, on ne sera pas surpris, d'une certaine façon. Alors, Anne, il y a aussi un côté... dans le fond, tu insistes beaucoup sur... Tu remarques, dans le fond, qu'il n'y a pas de désir sans langage. Tu as remarqué vraiment que le langage est la condition... est la condition du désir. Le langage est la condition de tout ce dont on parle ici, dans le fond. Parce que dès lors qu'on dit que le sujet est double et divisé, ça ne peut se comprendre qu'avec le langage. Il faut qu'il y ait le langage pour qu'il y ait un arrière-plan, comme tu dis, qui rompt la réciprocité. Enfin, le graphe, comme tu dis, c'est simple. D'une certaine façon, c'est que n'importe quel mot se dit en plus d'un seul sens. Hein? Il y a forcément un arrière-plan, une profondeur de champ, une équivoque qui permet à l'inconscient de se loger. Je suis d'accord avec qu'on dit ça dans le fond, c'est que d'une certaine façon, le désir, la condition du désir, c'est l'équivoque qui existe dans le langage même comme tel. Dès lors qu'on a un langage où il n'y aurait plus d'équivoque, donc enfin un langage précis, n'est-ce pas? C'est fort bien, mais il ne peut plus y avoir d'inconscient à ce niveau-là. C'est que pour le coup, tout serait forcément articulable, ce sera un ensemble fini. Alors que les possibilités d'équivoque dans le langage sont infinies. Le côté, dans le fond, on pourrait dire ça. Le désir articulé mais pas articulable, c'est que tout simplement aussi, il y a quelque chose absolument infini.
Oui, enfin, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ça. Et ça me fait penser peut-être à deux choses présentes dans le séminaire qui m'ont fait sourire, mais qui quelque part rejoignent cette remarque du côté infini du désir. Et donc, qui est au fond quand Lacan dit à un moment donné dans ces séances-ci... que tant mieux s'il y a des gens qui s'occupent du sujet du côté de la psychologie et en essayant au fond de réifier le sujet, de le rendre comme une chose. Ça, c'est l'inverse de la démarche que Lacan fait ici. Le sujet n'est pas calculable et c'est ce que Lacan attribue aux démarches des sciences humaines. Il dit d'ailleurs à un certain moment qu'il n'y a pas de compromission possible. C'est quelque chose qui m'a fort marqué dans les séances que je commentais. Pas de compromission possible entre la démarche analytique et, par exemple, les sciences biologiques pour, par exemple, exprimer la prévalence de l'objet ou des choses comme ça. Donc, effectivement, c'est parce qu'il y a cet arrière-plan, c'est au-delà de la demande que les choses peuvent être infinies. Et il y a un autre endroit dans le séminaire où il dit, et ça me faisait également penser à ce que Laura a amené, où il dit que rien ne peut... Enfin, je ne sais pas très bien comment il le formule, mais j'en ai retenu ceci, que rien ne peut... réduire à néant ou annuler le désir, qu'il reste toujours comment dire, ça me faisait penser au fond à la question du symptôme en lisant ces lignes là il faudrait que je les retrouve dans le séminaire, mais que au fond quand Laura disait il faut pas forcément aller voir derrière le masque et le masque cache le désir, on sait que quand on touche trop vite aux symptômes, d'autres symptômes viennent prendre place. Et donc, il y a quelque chose du désir qui est toujours en mouvement, quelles que soient les opérations que certaines approches psychologiques opèrent sur le symptôme et en essayant de viser, par exemple, une remise aux normes du désir. Enfin, quelque chose qui serait de cet ordre-là. Et voilà, ça, c'est deux points qui m'avaient aussi marqué et qui s'inscrivent dans ce côté non calculable du sujet profondément divisé par le signifiant.
Alors, à la fin de cette leçon-là, il y a un passage aussi amusant, évidemment, quand il compare l'hystérie et l'obsession. L'hystérique sur le désir, la question du désir, elle y est comme poisson dans l'eau. Le désir, c'est forcément toujours autre chose. On ne peut pas toujours le dire. On ne peut pas. Forcément, c'est toujours vague et flou. C'est toujours au-delà de ce que vous pouvez en dire. D'ailleurs, Laura a amené la question, tu l'as évoquée, mais tu as cité, je ne sais plus quel poète dont parlait Freud, sur la question du secret. Ça, c'est bien quelque chose d'hystérique et de féminin. C'est bien la question du secret.
Et Freud, d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant quand dans la clinique du désir féminin chez Freud, c'est le secret. Il fait une grande place au secret. Il fait même quelque part remarquer que l'équivalent du ravalement, dont les hommes sont évidemment plus courants, plus l'habitude, le ravalement de la vie amoureuse, l'équivalent du ravalement chez l'homme, l'équivalent chez la femme du ravalement chez l'homme, eh bien, c'est le secret. L'homme ravale et la femme cache. C'est comme ça que Freud distribue un peu les choses. Alors ici, hystérie, obsession, c'est en fond, c'est amusant. L'une cultive le désir. C'est le désir avant tout. Alors, le secret et le silence, finalement, c'est à peu près pareil. Et il est important de laisser, on a bien sûr le droit au secret. On a même fait un colloque, la guerre. Le droit au secret, c'était bon. Alors que l'obsessionnel, il est aussi passionné par le désir, mais lui, ça le tourmente. Il est quand même, Lacan, quand même, montre qu'il y a une espèce de. Dans le fond, c'est pas juste. Il y a vraiment une injustice. Comme Lacan le décrit, est-ce qu'on peut dire ça, qu'il y a une injustice Oui, c'est ça, vraiment une injustice quant au désir entre les hommes et les femmes. Hein, c'est vraiment un renversement par rapport aux grandes époques de l'ère victorienne où la femme était évidemment, le manque était de son côté, etc., n'avait pas le droit de vote, etc. Maintenant, comme le désir, on a bien sûr le droit au désir, mais par rapport au droit au désir, tout de même, on a l'impression que les femmes sont favorisées par le langage. Parce que ici, comme il montre l'obsessionnel, dans le fond, l'obsessionnel, lui, le désir, ça le tourmente et il n'en veut plus. Il faut vraiment tuer ça. On rabat le désir sur la demande. Je veux une. Alors ça, c'est évidemment, ça c'est grandiose. Il faut faire attention quand Lacan donne des trucs cliniques. Parce que si vous avez des jeunes enfants, surtout si ce sont des garçons, c'est encore mieux. Parce que ça, ici, c'est quand même plutôt les garçons. Hein? Si vous voulez voir comment un garçon de 4 ans va devenir un grand obsessionnel, vous faites un trajet en voiture, il fait chaud, en vacances, etc. Il demande un truc invraisemblable dont il se fiche, mais il le demande en faisant une scène épouvantable. Ceux qui ont des garçons ont toujours vécu ça. Et quand on vit ça, savoir que c'est évidemment... quand on connaît cette phrase de Lacan, ça n'aide pas. Mais enfin, c'est comme ça, on le sait. Donc, vous êtes d'accord qu'on dise ça, dans le fond, qu'il y a vraiment une injustice. C'est que Lacan a l'air quand même de... On voit que ce sont les femmes qui l'intéressent.
Oui, il y fait une belle part aussi dans le séminaire ici, en parlant dans la vie et le phallus, effectivement. Mais
c'est pas une position avec laquelle il y a une grande sympathie, me semble.
En tout cas, oui, Jacques-Alain Miller dit qu'il est très ironique à l'endroit des obsessionnels et sur les descriptions cliniques qu'il en donne. En même temps, il dit qu'il sait de quoi il parle. Voilà. Donc, enfin, une question de l'injustice, je ne sais pas, mais en tout cas d'un rapport, d'un rapport au fondamentalement différent et plus torturé au désir, évidemment.
Je crois que pour la femme, c'est difficile autrement.
Ce qui est frappant, c'est qu'il y a chez Freud plutôt une... Freud a quand même l'idée, la castration féminine, tout ça. Freud était quand même un peu phallocentré. Il y a une façon de prendre la clinique féminine. Au départ, il me le manque côté femme, et il part de là, Freud. Alors que Lacan fait plutôt il fait plutôt de la position masculine ici quelque chose de beaucoup plus fermé, de beaucoup plus enfin, il a l'impression quand même les obsessionnels, pour eux la vie est plus compliquée. C'est un peu de l'impression en lisant ce chapitre là alors on cause aux causes, mais vous avez des remarques, des questions. pas facile de poser des questions quand on est... Même quand on est obligé, il faut toujours un peu se casser la tête sur vous, si, pour en avoir qui vous vient, mais bon. Sinon... Voilà. Écoutez, voilà, ce sera le mot de la fin.